De retour à l'émission Au gré du temps, Gabriel Landry, artiste peintre, aussi communicateur, qui est originaire de Natashquan, mais qui a quitté ce coin de pays tout jeune, à l'âge de 12 ans, pour voler de ses propres ailes. Et on essaie un peu de comprendre, parce qu'on parle de Natashquan, mais vous constatez sans aucun doute que souvent on mentionne que les régions se vident de leur jeunesse. Il y a l'attrait des grandes villes, le travail n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce que c'est difficile que d'avoir un jour à quitter son village natal ou son coin de pays, quel que soit l'âge?
Oui, difficile. Ça dépend de la destination. Je pense que...
Mais à travers l'expérience qui est la vôtre?
Moi, l'expérience que j'ai, c'est bien sûr que je me retrouve, même ma conjointe Luce vient de Havre-Saint-Pierre. Alors, on est, comme je le disais l'autre jour, on a deux bonnes raisons de retourner sur la Côte-Nord. Et bon, maintenant, est-ce que c'est difficile? C'est sûr, on transporte tous ses racines avec soi. Je pense que c'est ce qui fait l'authenticité de chacun.
Et puis, mais quand vous avez quitté à 12 ans, est-ce que c'était une période difficile à traverser?
Ben, je partais avec père, mère, frère, sœur. Je savais qu'on retournait. Donc, je retournais à Québec avec plaisir. Je revenais à Natashquan avec plaisir. Peut-être la première fois où j'ai quitté. La deuxième année où j'avais un chien qui m'avait suivi la première année et que j'ai dû laisser à Natashquan pour une raison toute particulière, à ce moment-là, ben oui, la deuxième année était plus difficile à cet âge-là. C'était un grand compagnon que je laissais.
Et vous êtes retourné de façon régulière par la suite.
Absolument.
On revient constamment à son point d'attache. Nos racines, on ne s'en détache pas facilement.
Non, absolument.
Vous avez de beaux souvenirs aussi quand vous pensez à cette période, à ces visites à Natashquan. Je pense entre autres à cette visite impromptue ou à cette discussion entre Gilles Vigneault et la fille de Michel Chartrand.
Oui. Ben, c'est ça. Écoutez, c'était, je me rappelle peut-être, je devais avoir 15 ans ou, à la sortie des vêpres ou de la messe le soir, Vigneault était passé par... une cuisine d'été où ma mère avait prêté cette cuisine-là à la fille, à Michel Chartrand, et une amie, en tout cas finalement, qui y demeurait parce qu'ils étaient dans la pluie abondante et avec la tente. Et bon, Vignon s'était amené là, et moi, j'avais passé une partie de la soirée, peut-être jusqu'à minuit et demi ou deux, ou une heure du matin, là, à les entendre discuter. Puis voilà, c'est un souvenir intéressant.
D'autres beaux souvenirs. Quand on parlait justement des îles de l'enfance, c'est de cela dont il était question. Ces souvenirs qui nous reviennent à l'esprit. Cette visite impromptue de Félix.
Oui, ben Félix Leclerc était passé chez nous. J'en parlais d'ailleurs dans mon exposition que j'ai faite à Québec en 1995 à la Galerie Jules Hervé, où c'était une exposition inspirée de 22 chansons de Félix Leclerc pour le 25e anniversaire de la galerie, de la Galerie Jules Hervé. Mais Félix Leclerc était effectivement venu chez nous et il y avait passé 3 jours. Il était accompagné justement de Monique Miville-Deschênes et de Mme Gaëtane Morin. Et un dénommé M. Pichette, que je me rappelle beaucoup plus tard avoir eu une anecdote que j'étais allé... j'avais fait le portrait de Félix Leclerc, de René Lévesque, Rêve inachevé. J'ai fait ça en 87. M. Leclerc est décédé en août 88. Bon, alors j'étais allé à Québec en janvier 88 et j'avais remis... Je voulais aller remettre une litho à M. Leclerc et... Coïncidence, quelqu'un m'avait dit un restaurant, il demeure à tel endroit, la clôture de métal, mais tu pourras pas aller faire un tour, tu pourras pas t'y rendre, à moins que tu ailles frapper peut-être à la porte d'une voisine qui s'appelle Madame Pichette et qui finalement... Alors, je vais frapper à la porte de Mme Pichette en lui disant que je suis pas un bandit, je viens de Natashquan. M. Leclerc était passé chez nous, j'aurais le goût d'y remettre cette litho-là de René Lévesque. Et là, la porte a été tout grande ouverte. Elle dit « Ah non, mon mari est avec lui ». Alors, le fameux M. Pichette en question, c'était son mari. Alors, tout de suite, elle m'a ouvert le chemin pour me rendre à la maison de M. Leclerc, et c'était Nathalie, je pense, qui était...
sa fille.
Sa fille, oui, qui m'avait reçu. M. Leclerc était à l'hôpital, si ma mémoire est bonne, à ce moment-là. Et en lui remettant la litho de Rêve inachevé, bon, ben, eux venaient de recevoir dans la poste, la lettre était sur la table avec une photo de l'épitaphe de Félix Leclerc, de René Lévesque, où la fameuse phrase de M. Leclerc. Finalement, la famille Lévesque remerciait M. Leclerc pour la phrase en question. Alors, au moment où ça coïncidait, où j'allais remettre cette litho-là. Petite coïncidence.
Des moments marquants, quand même. Absolument. Des synchronicités dans la vie qu'on n'imagine même pas, mais qui surviennent comme ça. Première chanson de ce deuxième bloc, Claude Léveillé. Pourquoi?
La légende du cheval blanc. Bon, beaucoup de chansons m'ont marqué à cette époque. Le pourquoi, c'est sur un cheval blanc, je t'emmènerai. L'Alléluia, la finale. Bon, en fait, c'est une chanson qui coïncidait au moment où j'ai rencontré ma conjointe de vie, qui est Luce.
Et vous avez passé un été avec des chevaux, je crois.
Ah, j'ai eu un été, fantastique. Je pense que j'avais 16 ans et on faisait du cheval pas de sel, là, si on veut. Et j'allais par la plage cet été-là. J'avais eu un travail dans un petit projet minier qui avait à Pointe-Parent, à 4000 du village. Et puis, on se rendait par la plage.
Vous voyez, on est en train de les explorer, ces îles de l'enfance, petit peu, là.
Ben, vous m'y ramenez.
On écoute Claude Léveillé.
Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux. Pourtant je sais que ce n'est qu'un rêve. Pourquoi faut-il que ce ne soit qu'un rêve? Mais l'hymne à l'amour, je l'entends déjà.
Claude Léveillé, la légende du cheval blanc. On va enchaîner tout de suite avec Gabriel Landry, avec un autre Landry, qui a pour prénom Éric, et qui nous interprète une chanson de Félix Leclerc. Alors, présentez-nous donc qui est cet Éric Landry et pourquoi cette chanson.
En fait, Éric Landry, c'est mon neveu qui, comme beaucoup d'artistes, travaille fort pour... Alors, il a fait deux CD jusqu'à maintenant, et son deuxième album a été justement... La première chanson sur son deuxième album devient... et la chanson des mauvais conseils, tant qu'à moi, qui comporte tous les contrastes de la vie, mais qui sont les plus belles leçons de vie en même temps. Et c'est sur mes mauvais conseils qu'il l'avait d'ailleurs enregistré.
Quitte le nid, si tu y es bien. Gagne la main, si tu es goéland. Défends tes droits, surtout droit à l'erreur. Sois l'eau qui porte le radeau en dérive. Devenir grand, c'est choir hors du nid. Se séparer, c'est rester unis. Les désunis vivent souvent ensemble. Bâtir son nid, c'est savoir s'en aller. Quand on est vieux, on dit j'aurais dû. Si j'avais su, disent les quêteux. La possession écrase les épaules. Rien posséder n'est pas toujours très drôle. La connaissance est loin des livres. Repos fatigue et fatigue repose. Et si tu chantes, chante pour toi d'abord. Car l'ignorance a le mépris facile. Le verbe aimer pèse des tonnes. Ne pas aimer pèse plus lourd encore. Aux bruits humains vont les fils des ténèbres. Fils de lumière se gavent de silence. En bonne note des mauvais conseils. Ton allié s'appellera vieillesse. Aime le traître, il s'appelle jeunesse. Et tu vivras 100 ans. S'appelle jeunesse et tu vivras sans...
Éric Landry, dis-je bien, Les mauvais conseils, chanson de Félix Leclerc, le neveu de Gabriel Landry qui est avec nous aujourd'hui, qui est un artiste peintre, qui a fait des études aux Beaux-Arts à Québec.
Pardon. Non, en fait, j'ai fait une... J'aurais souhaité aller aux Beaux-Arts. C'était à l'époque où, de la 11e année, il fallait passer par ce qu'on appelait le CPES. Et
oui,
c'était
voilà.
Une année de plus, etc. Puis, en fait, je me sentais attiré. Mais finalement, par voie de circonstance, le studio 437...
Voilà. C'est mon erreur, parce qu'effectivement, vous m'aviez mentionné cela, oui. Que vous étiez attiré par les Beaux-Arts. Mais finalement, ça a bifurqué vers... On peut dire l'éclosion vers le monde de la publicité et cette rencontre un jour avec M. Bouchard.
Avec Jacques Bouchard, oui, qui est le père de la publicité québécoise, qui m'a naturellement, il a marqué tellement de gens, mais dans le métier en tout cas, puis moi, il m'a marqué particulièrement. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Bouchard, qui à l'époque était un peu le Guy Lafleur, là, si on veut, de la pub.
Tout à fait.
Et un de ces moments donnés où j'étais à Sept-Îles, j'avais ma boîte de communication là-bas, je me retrouve à une journée, un colloque du Club de publicité de Québec, et c'était Bouchard qui y était invité. Et comme par hasard, je le croise dans le corridor, et puis avant l'inscription et tout, puis je lui serre la main, on se présente, il dit « As-tu déjeuné? » « Non, ben viens déjeuner avec moi. » Alors ça a été mon premier contact avec Bouchard, qui après ça, avec Jacques Bouchard, qui après ça est devenu... finalement m'a permis d'aller vivre l'expérience BCP pendant près d'un an et d'être à... En fait, c'est lui qui m'a amené à Montréal.
C'est un peu comme ça, la vie. Hein? La vie suit son cours. Parfois, ce cours est un peu sinueux.
On ne comprend pas tout de suite.
On ne comprend pas tout de suite. Mais il y a peut-être des parallèles à établir entre la création artistique, qui est la vôtre, et ce monde parallèle de la communication au sens large, le monde de la publicité, du graphisme, y voyez-vous justement parfois des chemins croisés, là?
Absolument. Je pense qu'en pub, pour ne pas dire le mot, on travaille toujours dans un corridor. On a de la créativité, mais avec certaines démarches à suivre en fonction d'objectifs, de cibles, etc. Mais je pense qu'en Disons que sans doute par déformation professionnelle, j'ai travaillé beaucoup sur des expositions à thème. Il y a peut-être ce parallèle-là à faire, entre autres.
Alors, vous parlez de corridor. Nous avons parlé de Leclerc, de Félix. Le voici avec ce corridor étroit qui est celui de la vie, de l'amour, de la mort.
C'est beau, la vie, comme un nœud dans le bois. C'est bon, la vie, pure au creux de ta main. Fragile aussi, même celle du roi. C'est dur, la vie. Vous me comprenez bien. C'est beau l'amour, tu l'as écrit sur moi. C'est bon l'amour quand tes mains le déploient. C'est lourd l'amour, accroché à nos reins. C'est court l'amour, et ça ne comprend rien. C'est fou la mort, plus méchant que le vent. C'est sourd la mort, comme un mort sur un banc. C'est noir la mort, et ça passe en riant. C'est grand l'amour, c'est plein de vie dedans.
Félix Leclerc, un choix de Gabriel Landry qui est avec nous aujourd'hui, un artiste peintre, un communicateur. Si on parlait justement de l'art publicitaire, est-ce qu'on peut utiliser ce terme d'abord, art publicitaire? Est-ce que c'est un art que de faire de la création publicitaire?
Ben, je pense que vivre est un art. Ou,
c'est bien dit.
Alors, qu'est-ce qu'on
un
peut faire?
Un art parfois divisé.
On peut se comprendre, oui, sans doute. Et ben voilà, est-ce que on peut parler d'art publicitaire? Je pense que oui, en autant qu'on puisse, comme l'art de la cuisine, comme l'art... Je pense que tout ce qu'on fait avec passion ou intensité ou avec honnêteté ou authenticité, appelons ça comme on veut, je pense que c'est du grand art.
Si vous cherchiez...
Moi, j'ai choisi les arts visuels voilà. Par la peinture, mais...
Si on cherchait le fil conducteur dans tout ce que vous faites, quel serait-il? Une bonne question, n'est-ce pas?
Le fil conducteur...
Publicité, peinture, communication. Est-ce qu'il y a un fil conducteur à travers ça? Est-ce qu'il y a une quête profonde?
Je me rappelle d'un livre de Claude Cossette qui s'intitulait « La publicité, art culturel ». Alors, jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a un lien? Oui. En fait, on parlait de l'enfance tantôt, quand je suis arrivé à Québec, j'étais tiraillé, si on veut, entre deux mondes qui m'ont jamais quitté, finalement. Je me rappelle de l'émission « Ma sorcière bien-aimée » pour ne pas la nommer, où Jean-Pierre Steven était le fameux publicitaire là-dedans, et à 12-13 ans, je ne savais pas qu'est-ce que ça pouvait signifier, mais je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait en écoutant le format de l'émission et tout ça. Et en même temps, en parallèle, bien, il y avait le fameux Picasso qui débordait. Et ces deux personnages-là m'ont inspiré beaucoup. Alors, le fil conducteur...
Bien, on essaie de poursuivre cette introspection. On va se permettre un moment peut-être de recueillement avec la belle voix de la mezzo-soprano Angelika Kirchlager qui va nous interpréter Aridanos de Joseph Haydn avec l'accompagnement au violoncelle de David Daniels, Jonathan Rees au violon et Roger Vignoles au piano. Et on revient sur cette quête qui est la vôtre. La musique de Joseph Haydn. Gabriel Landry, votre quête, quand vous y pensez, est-ce que lorsque vous étiez jeune, vous cherchiez fondamentalement à vous distinguer, à ne pas faire nécessairement un travail qu'on pourrait qualifier de traditionnel? Aller dans le monde de la création, c'est déjà sortir, élargir les horizons, parce que vous avez vécu dans un univers où les horizons sont presque infinis. Natasha Kwan ouvre sur la mer.
Le golf est grand.
Le golf est large. Oui. Le golf est large.
Puis quand on vient d'une famille de 15, ben on lève pas toujours la main avant de parler, donc on va souvent à contre-courant. C'est Vignon d'ailleurs qui chante, c'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau. Alors, qu'est-ce qui nous mène... Excusez-moi, là, j'ai comme...
Qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui a destiné, dans le fond, votre voix? Destiné, même, cette voix?
Je me suis toujours senti... je peux appeler ça peut-être un rebelle ou... le cerf-volant s'élève contre le vent. Je veux dire, qu'est-ce qui m'a amené à toujours tenter de me démarquer là-dedans? Ben, je pense que la quête dont vous parliez tantôt, l'inaccessible étoile, on sait qu'on ne l'atteindra jamais, mais il faut toujours y tendre et tenter de s'élever. Qu'est-ce qui me motive?
Qu'est-ce qui vous allume encore? Et à l'opposé, qu'est-ce qui vous éteint, tiens?
On
touche quelque chose de sensible.
Qu'est-ce qui m'allume encore ou qu'est-ce qui m'éteint? Ben, les joies et les petits plaisirs quotidiennes, le cheminement, je ne sais pas, je laisse beaucoup aller l'instant du moment où je pense, comme on disait à un moment donné antérieurement, on choisit une direction, mais on ne sait jamais le chemin. On se sent attiré, ce n'est pas toujours une compréhension en soi.
Est-ce qu'il vous éteint?
Très difficile à dire. Je me sens de nature optimiste, mais je dis toujours dans le noir, par exemple, c'est dans le noir que la lumière est la plus belle. J'aurais pu faire l'apocalypse, par exemple, dans une approche de noirceur, mais instinctivement, j'étais amené à prendre le contraire, puis à me dire, c'est ça, si la lumière existe, la clarté existe. Ce que je savais pas quand j'ai commencé les premiers tableaux sur l'Apocalypse, c'était tout simplement un prêtre qui était venu à ma première exposition en 1986, qui m'avait dit qu'il aimait ce que je faisais, mais t'as pas pensé de t'inspirer de l'Apocalypse, c'est tellement plein de symboles, plein d'images. Alors, ça m'est resté dans la tête, et en 2000, j'avais fait cette premier tableau-là et autres, mais sous cet angle-là. Une approche. Et effectivement, ben, plus j'ai avancé à travers le temps, quand j'ai rencontré des gens discuter de l'Apocalypse avec Jean-Pierre Prévost et d'autres, je me suis rendu compte que finalement, l'Apocalypse était un message d'espoir chez ceux qui croyaient. Alors, on disait, qu'est-ce qui vous éteint, qu'est-ce qui vous allume? Souvent, ce qu'on pense qui nous éteint nous allume.
C'est curieux parce qu'on terminera cette émission en parlant d'Apocalypse et on essaie un peu de faire la genèse de cette création qui anime l'artiste, parce que pour les regards qui sont ceux que nous posons sur vos toiles, il y a toujours cette interrogation à l'égard de comment se sent l'artiste, qu'est-ce qui le pousse à créer. Donc, on essaie de comprendre. Quand on parle de quête, c'est tenter aussi de mieux percevoir le travail qui est le vôtre. Vous avez parlé de l'Apocalypse. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler de cette œuvre, qui est quand même une œuvre majeure. Et j'aimerais bien que vous puissiez élaborer, Gabriel Landry, sur ce travail qui s'est fait en collaboration, d'ailleurs, avec M. Brault.
Avec le poète Jacques Brault. Oui, et particulièrement Jean-Pierre Prévost.
Oui.
En fait, oui.
Alors, on va pouvoir y revenir, si vous voulez bien, en vous demandant d'être des nôtres la semaine prochaine.
Ben, c'est un grand plaisir et surtout un grand honneur.
Bon, alors on poursuivra cette conversation et on essaiera peut-être de poursuivre non plus sur la genèse, mais peut-être sur l'articulation de ce qui est votre principale activité artistique, c'est-à-dire la peinture. Avec nous aujourd'hui, Gabriel Landry, merci d'avoir été là.
Fait plaisir.
Semaine. On va terminer cette émission avec cette belle chanson de Claude Léveillé. On parlait des îles de l'enfance, mais lui nous parle du navire de l'enfance. Armand Dubois, micro. Cette émission a été réalisée sous la supervision de Guy Lafrance. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Au plaisir. Au revoir.
Quand on entre dans la vie, on est seul, seul sur son navire. Beau navire effarouché qui se lance en pleine mer, à l'assaut des soleils, des bouts du monde, de celui de celle qu'on aimera et qui sera pour toujours notre compagnon de bord. Viens la vie, je t'entends, je te prends, je te fais mon lit d'amour. Viens ma vie, depuis le temps que moi je t'attends. Viens l'amour attendu, je t'emmène en cette mer, en notre mer, en cette nuit, en notre nuit, moi qui t'aime tant. Quand on entre dans la vie, bah on est seul, seul sur son navire. Beau navire effarouché qui se lance en pleine mer, à l'assaut des soleils, des bouts du monde, de celui de celle qu'on aimera et qui sera pour toujours notre compagnon de bord. Il arrive parfois que le ciel et la mer font tempête, ne sont plus que trous noirs et on se tient à la barre et ça craque de partout, ça chavire. Ce navire, mon amour, cette mer, mon amour, c'était notre vie. Quand se calme la mer, le ciel et la tempête, on se retrouve seul sur son navire. Désert, désert est le navire. On ne sait plus que faire, on ne sait trop que dire. Mais parce qu'on bat un cœur sommeil, l'espoir, on hisse à nouveau les voiles et on reprend quoi. La mer à la source des soleils, des bouts du monde, de celui de celle qu'on aimera, pour lesquels, sans trop le savoir, on avait pris.